Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Maître vulgarisateur, il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles.
C'est comme la dernière étape d'une espèce de réforme du droit qui tourne autour de la famille, celle qui touche vraiment les enfants dans des unions de fait, face à des conjoints qui ne sont pas mariés. Ce qui était, si on remontait quelques décennies en arrière au Québec, des cas d'exception qui étaient gérés comme tels. La grande majorité des enfants naissaient dans des couples mariés. Pas tout à fait en 2024. Là. Maintenant, c'est une minorité d'enfants qui naissent dans des couples mariés. La plupart des enfants naissent hors mariage, donc dans des couples en union libre. Et donc là, il s'agissait, comme l'avait dit le gouvernement, on ne veut pas marier de force des gens qui ne veulent pas se marier, des gens qui sont en union libre. Mais pour le bien de l'enfant, il faut créer une sorte d'union autour de l'enfant là, qui protège le bien-être de l'enfant. C'est ce qu'a déposé, ou c'est ce qu'a voulu en tout cas déposer ce matin, le ministre de la Justice du Québec, Simon-Jolin Barrette. On va en parler avec Valérie Costanzo, professeure au département des sciences juridiques de l'UQAM, spécialiste en droit de la famille. Bonjour.
Bonjour, merci de l'invitation.
Qu'est-ce que vous pensez de cette création, de ce nouveau concept de l'union parentale?
Alors, qu'est-ce que j'en pense? Je pense qu'il y a ici, enfin, un geste clair qui est posé à l'égard des personnes qui sont en union de fait, particulièrement pour des personnes qui ont des enfants. On pourrait considérer le geste courageux, considérant que ça fait 10 ans qu'il y a cette attente depuis le fameux jugement prénommé par les médias, Éric contre Lola.
Ouais.
Où est-ce qu'il y a des pressions qui sont faites sur les différents gouvernements qui se sont succédés, des promesses qui ont été effectuées et enfin une proposition qui est sur la table du gouvernement aujourd'hui.
Ouais. Ouais, parce qu'il y avait eu un grand rapport après de M. Roy, le professeur Roy. Donc, il y avait vraiment tout un travail qui avait été fait et c'est resté un peu tabletté. Et ça signifie quoi si vous essayez de nous simplifier ça là, pour des couples qui nous écoutent, qui vivent comme ça, en union libre avec un enfant? Qu'est-ce que ça change? Comment on décrirait le avant et le après?
Alors, je vais commencer par dire que la loi qui est proposée, le projet de loi, exclut les personnes qui aujourd'hui sont en union de fait et ont des enfants, commencerait à être appliquée à partir de juin 2025.
Pour les futurs enfants.
Pour les personnes qui aujourd'hui, exactement, pour les futurs enfants et les futurs parents, pour les personnes qui sont aujourd'hui en union de fait avec des enfants, seraient exclues de l'application de la loi. Peut-être que ça vaut la peine d'avoir une discussion et puis s'y soumettre éventuellement, mais ça reste sur la volonté des personnes d'adhérer à cette manière de voir leur union et leur famille avec des enfants.
OK, donc excusez-moi, je vous arrête. Donc, les personnes qui sont actuellement avec des enfants en union libre pourraient s'y soumettre, mais devraient faire une démarche volontaire pour dire on veut être inclus dans cette nouvelle union parentale. Ils n'y seraient pas automatiquement.
Au même titre que le mariage, on demande aux gens de se souscrire à un régime. Le mariage, c'est un régime qui est déjà entièrement encadré ou presque. On crée un nouveau régime avec l'union parentale. C'est autre chose. Les personnes qui sont en union de fait encore aujourd'hui pourraient choisir d'y adhérer, mais ça reste, c'est pas encadré en soi par le législateur. Ça reste un choix qui sera à faire. Voilà.
OK. Mais donc, à partir du moment où ça va être obligatoire pour tout le monde, on dit que ça change certains éléments au moment du décès, au niveau de la propriété de la maison familiale. Expliquez-nous ce que ça vient changer pour le couple et l'enfant.
Alors, effectivement, on s'inspire du cadre qui existe pour le mariage. On s'inspire notamment de la vocation successorale. Je pense que c'est un élément super important de le nommer ici. Donc, si jamais un des conjoints décède sans testament, à ce moment-là, son coparent pourra hériter d'une partie des sommes laissées en héritage, chose qui n'était pas possible avant et chose qui ne sera pas possible pour les personnes en union de fait qui ne sont pas parents d'un même enfant. Alors, pour les personnes qui sont parents d'un même enfant...
Puis ça, je l'ai déjà entendu dans des cas précis, ça laissait des cas où le parent laisse de l'argent à ses enfants qui sont mineurs, qui n'ont pas le droit d'y toucher, Mais exemple, le père décède, c'est lui qui avait les plus gros revenus, laisse une entreprise, des montants d'argent, s'est placé comme dans un fonds, une fiducie pour les enfants pour quand ils seront adultes. Mais dans le concret, la mère, pour les élever, n'a pas tant d'argent que ça, là, ou peu.
Exactement. Donc, ça vient répondre à cette situation qui était jusqu'ici laissée pour compte. Je vais préciser aussi quelque chose. Vous indiquez là un régime qui est obligatoire. On prévoit dans la loi la possibilité de se sortir de ce régime-là. Donc, les personnes qui, à partir de 2025, sont en union de fait et ont des enfants, pourraient choisir, par convention notariée, ceci dit, de ne pas se soumettre aux règles qui sont prévues et au mécanisme juridique qui est prévu pour l'union parentale.
Okay.
Donc, ce serait possible de s'en sortir, contrairement au mariage qui est imposé avec plusieurs mécanismes qui sont imposés. Regardons maintenant plus spécifiquement quelles sont les mesures qui sont proposées. Alors, on parle de patrimoine familial. Enfin, ici, ce serait un patrimoine d'union parentale, excusez-moi, qui est inspiré du patrimoine familial. On parle de protection de la résidence familiale, vous l'avez déjà dit. On parle également, au moment de la rupture, d'un partage de certains biens dans le patrimoine d'union parentale. Ça n'inclut pas tout ce qui était présent et qui est encore présent dans le mécanisme juridique du mariage. Ça exclut les résidences secondaires. Ça exclut également les régimes de retraite. Alors, on s'inspire du code juridique du mariage, mais on fait quelque chose qui est à la pièce pour des unions parentales.
Mais c'est comme si on nous dit, dans l'explication, on nous dit que c'est comme si on le ramène plus à ce qui est autour de l'enfant. Comme la résidence familiale, ben c'est la résidence où vit l'enfant, alors que le fonds de retraite du conjoint, il y a peut-être moins rapport, ou la résidence secondaire. Ça vous paraît équilibré, cette idée de dire c'est des gens qui n'ont pas voulu se marier, mais ils ont un enfant en commun, donc ce qui tourne autour de l'intérêt de l'enfant, on le force un peu dans un patrimoine commun, c'est ça la logique?
En principe, oui. Après ça, on pourrait se poser d'autres questions. Les résidences secondaires, c'est des résidences qui servent également à la famille. Alors, pourquoi les exclure alors que les enfants y ont accès? Ça fait partie du niveau de vie d'une famille. La question se pose.
Okay.
Également pour les régimes de retraite, s'il y a des conjoints-conjointes qui, pendant l'union, doivent prendre un congé de maternité, de parenté, on va cotiser dans ces régimes-là. Puis, il y a un esprit de solidarité qui est moins présent dans ce qui est proposé par le gouvernement. On a plutôt un régime qui est compensatoire. On parle des conséquences au moment de la séparation, si séparation il y a, qui viendrait rétablir des déséquilibres qui seraient pendant l'union avec des enfants. Mais moi, je me pose des questions sur pourquoi est-ce qu'on exclut les résidences secondaires et les régimes de retraite.
OK. OK. On nous parle de mesures contre la violence judiciaire là dans le résumé que fait le ministre Jolin Barrette de son projet de loi. Qu'est-ce qu'on appelle la violence judiciaire?
Ça s'inscrit dans un esprit où est-ce qu'il y a des personnes qui vont faire ce qu'on appelle autrement des abus de procédure, vont insister, vont multiplier les recours judiciaires dans un esprit de harcèlement, dans un esprit d'insistance pour constamment avoir possiblement un contrôle sur le coparent, le conjoint, la conjointe. Puis là, on vient encadrer explicitement les dispositions relatives à la violence judiciaire plutôt, qui permettraient, disons, un effet répressif d'une propension à des procédures judiciaires.
Mmh. Est-ce que, je veux dire, pour vous, là, vous lisez ça aujourd'hui, est-ce que pour vous, il y a un progrès indéniable sur le bien des enfants, sur les droits des enfants?
Il y a certainement un progrès pour le bien des enfants, c'est sans contestation aucune. On pourrait quand même se poser des questions à savoir pourquoi exclure le reste des personnes qui sont en union de fait. Vous aviez dit tout à l'heure, bon, il y a cette idée que tout le monde qui est en union de fait en fait le choix délibéré. Si on revient à cette fameuse cause d'Éric contre Lola, c'est vrai qu'il y avait des enfants dans cette circonstance-là, mais en fait, la preuve avait démontré que Lola désirait se marier. C'était Éric qui refusait de le faire. Alors, c'est de l'autonomie, de la volonté de qui est-ce qu'on veut protéger. Certainement, dans une perspective pour le droit des enfants, on est dans quelque chose qui est beaucoup plus en mesure d'encadrer les ruptures et de favoriser l'intérêt de l'enfant. Je dirais qu'ici, on a à la fois un progrès considérable, puis un progrès qui est prudent. Je qualifierais quand même de prudent, à savoir, ça fait l'objet d'une certaine controverse, hein, les unions de fait, comment est-ce que protéger possiblement des inégalités dans les couples, particulièrement dans les couples qui sont hétérosexuels. Mais il y a un consensus social qui se dégage lorsqu'il est question des enfants. Alors, on évite une certaine patate chaude, pour le dire ainsi, ouais, pour des unions de fait qui n'ont pas d'enfants. on les laisse encore à eux et elles. Puis s'il y a une personne qui veut se marier et l'autre non, tant pis, ce sera l'autonomie de l'une personne sur l'autre. Mais pour les enfants, on va créer un cadre qui, socialement, serait probablement accepté.
Valérie Costanzo, professeure en sciences juridiques à l'UQAM, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci à vous.